Vous écoutez
RMC.
Mardi 16 août,
l'info sur RMC.
6h sur RMC, tout de suite le journal, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Trois mesures fiscales pour venir en aide aux victimes d'incendies, annonce de l'exécutif hier après un été particulièrement dévastateur. Très attendu par les familles modestes, l'allocation de rentrée scolaire arrive à compter de ce mardi jusqu'à 411 euros qui vont faire du bien au porte-monnaie. Et puis c'est une petite musique qui se fait rare cet été dans le sud de la France. Les cigales ne chantent plus, la faute au réchauffement climatique.
Et avec cet été marqué par de nombreux incendies, le gouvernement annonce une aide pour les sinistrés.
Plus de 60 000 hectares ont brûlé depuis le début de l'année en France. C'est un record depuis 2006. Des feux et de nombreuses conséquences sur la faune et la flore, mais aussi pour les personnes victimes de ces incendies. C'est dans ce contexte que le ministre des Comptes publics annonce la mise en place d'une aide fiscale aux entreprises et aux ménages sinistrés durant l'été. Une sorte d'amortisseur fiscal, explique Gabriel Attal via une cellule incendie. Les précisions de Paul Barcelone.
Trois mesures pour les ménages touchés par les incendies. La possibilité de payer plus tard les impôts sur le revenu. Un délai supplémentaire pourra être demandé jusqu'à mi-septembre. Mais aussi une possible suspension de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Pour les habitants dont les logements sont sinistrés, interdits d'accès ou d'occupation par un arrêté de péril. Enfin, troisième mesure, au cas par cas, une potentielle baisse des prix de location en fonction des dégâts. Les entreprises, comme des restaurants ou des campings, auront elles aussi droit à des reports de paiement de leurs impôts. Que ce soit l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur les salaires. Enfin, au cas par cas, les travailleurs indépendants pourront eux bénéficier d'une subvention financière de l'URSSAF. Ces aides seront opérationnelles au plus tard à partir du début de semaine prochaine en contactant le numéro habituel des impôts.
Et des feux à cette heure fixés sur une grande partie du territoire. Les pompiers aidés par la baisse des températures et le retour de la pluie et des orages attendus ce mardi sur 5 départements placés en vigilance orange. Le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault, le Gard sont attendus par endroits jusqu'à 2 mois de pluie en 2 jours. C'est un coup de pouce pour la rentrée à compter de ce mardi. Elle est versée, l'allocation de rentrée scolaire. Sont concernés les parents ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans sous condition de revenus. Une aide versée en deux temps cette année suite à sa réévaluation de 4% après l'adoption du projet de loi pouvoir d'achat, entre 379 et 411 euros qui vont faire du bien à Séverine, mère célibataire de 2 enfants âgés de 3 et 11 ans. Cette aide est une véritable bouffée d'air frais.
Cette prime, elle est importante pour moi parce que ça me permet d'acheter les fournitures scolaires à ma grande et de pouvoir l'habiller, un minimum et de pouvoir, éventuellement pour une activité extrascolaire. Et j'ai pas pu faire toutes les fournitures scolaires parce qu'ils demandent, en cinquième, ils demandent pas mal de choses. Je touche 900 euros par mois, mais je paye 450 euros de loyer. J'aurais beaucoup de mal à acheter tout ce qui est fournitures scolaires et vêtements à ma fille si je n'avais pas cette prime.
Et on parle tous ensemble de ces listes de fournitures scolaires parfois trop longues. 32-16, j'attends vos témoignages. Y a-t-il parfois des abus? Faut-il faire un effort particulier cette année? 32-16, l'application RMC.
Benjamin Mendy devant la justice, le champion du monde français, est jugé à Chester, dans le nord de l'Angleterre depuis mercredi dernier. Le joueur de Manchester City est poursuivi pour viol, tentative de viol et agression sexuelle contre 7 femmes. Depuis hier, la parole est à l'accusation, une accusation Nicolas Pelletier qui décrit le joueur comme un prédateur.
Des hommes qui violent et agressent sexuellement des femmes car ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Voici les premiers mots de Timothy Cray, le procureur de Chester, au 3e jour d'audience du procès de Benjamin Mendy. Avec son ami Louisa Amaturi, ils sont qualifiés de prédateurs ayant fait preuve d'une indifférence impitoyable envers leurs jeunes victimes présumées qu'ils prennent pour des femmes jetables, des choses à utiliser pour le sexe, puis jeter de côté. Le procureur a ensuite dévoilé une vidéo de la villa de Benjamin Mendy. Ce manoir situé au sud de Manchester est au centre de l'accusation. Une fois sur place, certaines victimes se sont vues confisquer leur téléphone portable. D'autres ont été emmenées dans une pièce dotée d'un verrouillage spécial. Le procureur a conseillé au jury de mettre les sentiments de côté lors de ce procès qui doit durer 15 semaines. Benjamin Mendy risque la perpétuité.
Il est 6h05 sur RMC. Les derniers soldats de la force Barkhane présents au Mali ont quitté Gao.
Fidèle à un engagement d'Emmanuel Macron en février dernier pour qui les conditions opérationnelles n'étaient plus réunies, les militaires français présents sur place depuis 2013 pour lutter contre les forces djihadistes ont quitté le pays hier à 13h. Alors quel bilan tiré de cette opération militaire et quel avenir pour la région? Les explications de Romain Houx pour RMC.
Voilà 9 ans que les forces françaises étaient présentes au Mali. 9 ans au cours desquels 48 soldats français ont perdu la vie dans le pays. Objectif, lutter contre la progression des groupes djihadistes dans la région. Une mission partiellement réussie pour le spécialiste des questions militaires, Michel Goya.
Globalement, l'opération Barkhane remplit sa mission. On a éliminé des chefs locaux, des chefs djihadistes. On a éliminé le chef de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà, on a infligé de fortes pertes. Mais on ne s'est pas attaqué à ce qui faisait que ces gens-là existaient. Au contraire, les groupes commencent à se réimplanter dans le terrain.
Des groupes qui se réimplantent, progressent à nouveau sur le territoire et laissent présager des pires scénarios dans la région.
En réalité, c'est très inquiétant. Le risque, bien sûr, c'est qu'on se retrouve dans une situation proche de celle de 2012-2013, c'est-à-dire avec des groupes djihadistes qui vont occuper, qui occupent déjà une grande partie du pays, avec des conséquences qu'on peut imaginer aussi sur la région. Ces groupes djihadistes commencent maintenant à s'infiltrer dans le pays du Golfe de Guinée. Voilà, on a beaucoup de mal à déterminer quel sera l'avenir, mais il est plutôt sombre de ce côté-là.
Ce retrait ne signe pas pour autant la fin de l'opération Barkhane. Les militaires français restent engagés dans la région, notamment au Niger, mais leur nombre sur place sera divisé par 2 d'ici à la fin de l'année à 2500 soldats.
Une bonne nouvelle pour le tourisme français, les touristes sont de retour. Après 2 années marquées par la pandémie, le secteur retrouve le sourire avec un boom des réservations dans les restaurants, plus 35% par rapport à l'an dernier. En Ile-de-France, le chiffre d'affaires a même dépassé celui de 2019. Virginie Gendreau, consultante pour le cabinet de conseil Pro Tourisme, nous explique les raisons de cette reprise.
On a eu énormément un retour de la clientèle étrangère en France, européenne, qui est venue en masse, et également les Nord-Américains, ainsi que la clientèle du Moyen-Orient. Alors, moins de contraintes sanitaires, on l'a bien vu. C'était beaucoup plus facile de profiter des infrastructures, des voyages, des activités comme les musées, les bâtiments anciens qui ont également très bien fonctionné avec le retour de la clientèle étrangère. Toute cette culture, cette appétence pour le patrimoine historique a également bien fonctionné cet été, avec d'ailleurs des vacances 2022 qui ont commencé très tôt et très vite.
Des médailles et encore des médailles hier au championnat d'Europe. Multisport à Rome, tout d'abord avec la natation. Le relais tricolore a décroché l'or au 4x100 mètres mixte avec Maxime Grousset, Charles Rioux, Charlotte Bonnet et Marie Vatel. Marie Vatel également en argent sur le 100 mètres papillon. Une déception pour la Française favorite de l'épreuve.
Beaucoup d'émotions. Bon, après, je suis quelqu'un de très émotif, donc voilà, c'est pas étonnant. J'ai pas fait la course que j'aurais dû faire sur 100 papillons, mais voilà, au final, la médaille d'or, elle est tellement belle avec l'équipe qu'au final, je me demande si je préfère pas une médaille d'or avec l'équipe et une médaille d'argent individuelle. Donc, ça a été une belle leçon. Je suis trop contente qu'on ait fait ça tous ensemble. C'est une petite revanche.
L'équipe de France de natation artistique s'empare, elle, du bronze, des médailles tricolores aussi à Munich avec 2 nouveaux titres. 2 médailles d'or en cyclisme sur piste pour les Bleus, 1 médaille en argent en escalade. Kevin Moreau décroche le bronze et puis la paire Uane Lebesson est sacrée championne d'Europe en tennis de table. En revanche, touché aux adducteurs, Kevin Meyer a abandonné hier à l'issue de la première épreuve en décathlon. La Ligue 2, pas de vainqueur entre Quevilly-Rouen et Saint-Etienne hier soir en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Match nul, 2 buts partout. On termine avec un chant synonyme d'été, un symbole provençal. Je parle du chant des cigales. Des cigales en grande majorité muette en ce mois d'août, la faute au réchauffement climatique qui bouleverse leur cycle reproductif. Reportage dans les Bouches-du-Rhône, Clémence Fournival.
Au bar situé sur la petite place d'Allau, Virginie, habitante du village, est surprise de ne plus entendre les cigales.
Ça me fait très bizarre parce que tous les ans, on est habitué dans le sud à entendre les cigales. Ça fait partie de notre vie, de notre quotidien été. Et là, cette année, pas de cigales.
Cet été, elles se sont fait plus discrètes que les années précédentes, une situation qui inquiète Yannick.
C'est problématique, vu qu'on est né ici, qu'on a grandi ici, qu'on est habitué aux cigales, à la Provence, et tout ce qui a trait à ça.
Les cigales chantent en moyenne 4 à 6 semaines, mais cette année, elles ont arrêté plus tôt que d'habitude, comme explique Serge Zaka, agroclimatologue.
Il a fait très doux au printemps. Or, les œufs des cigales éclos plus tôt lorsqu'il fait plus doux. Donc, elles se sont mises à chanter 1 à 2 semaines plus tôt cette année.
Et les fortes chaleurs ont aussi impacté l'insecte.
Autour de 36 ou 38 degrés, au-dessus de ces températures-là, les cigales souffrent de la chaleur et ne chantent plus.
Dans les années futures, les Provençaux vont devoir s'habituer à moins entendre les cigales, car celles-ci commencent à migrer plus au nord de la Provence et en altitude.
Ah! Ici, nous, dans le studio, les cigales chantent encore.
Oui, ça fait du bien. Et la lumière.
Il y avait des cigales.
C'est les vacances quand les cigales se mettent à
chanter. Bonjour Anaïs Castagna.
Bonjour Sébastien.
Il y avait des cigales cet été en vacances, Thibaut Texer ?
Oui, j'étais à Toulon, dans le plus beau département de France, le Var.
Bien sûr, ah,
c'est bien sûr.
Non, il y avait un petit peu. C'est vrai qu'on. Je me suis fait la réflexion qu'il y en avait un petit peu moins qu'habituellement.
Qu'il y en avait un petit peu moins. C'est incroyable. Les cigales ne chantent plus à cause du réchauffement climatique. Elles vont peut-être pouvoir chanter la nuit, je ne sais pas. Non, ça, c'est, ça chante pas la nuit, les cigales.
Non, par contre, j'en ai entendu à Colombes.
Ah,
mais non.
Ah si si, je passais en voiture, j'ai arrêté.
Colombe près de Paris. On est d'accord, on parle du même Colombe.
Je pense que vous avez la tête aux vacances.
Et alors, je me suis renseigné, effectivement, il peut arriver qu'il y ait des cigales en Île-de-France. Elles sont transportées par les cagettes. Et en fait, elles éclosent ici et après, elles meurent parce qu'elles ne peuvent pas se reproduire.
Oh. Ce sera le sujet de demain.
Voilà.
Les cigales arrivent à Paris. Deuxième effet du réchauffement climatique. A tout de suite sur RMC, 6h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin, le débat du jour, c'est le coût de la rentrée scolaire et notamment la liste des fournitures scolaires qui ne cesse d'augmenter. Certains parents ne s'en sortent plus, tout simplement. Certaines associations de parents d'élèves réclament la gratuité des fournitures scolaires. Et vous, que constatez-vous ? On vous attend au 32-16 et sur l'application Direct Studio. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h12 sur RMC et RMC Story. Et ça y est, la rentrée scolaire approche. On en parle ce matin sur RMC. Parce que d'ailleurs, l'allocation de rentrée scolaire va être versée à partir d'aujourd'hui à 3 millions de familles modestes. Allocation revalorisée de 4% au moment de la loi pouvoir d'achat votée au mois de juillet. Cette liste de fournitures scolaires qui parfois s'allonge dans les écoles, vous l'avez peut-être constaté pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Alors on vous pose la question ce matin au 32-16 et sur l'application RMC. Y a-t-il parfois des abus ? Faut-il faire des efforts pour réduire cette liste ? Surtout que les cahiers coûtent de plus en plus cher. La FCPE pointe des augmentations de 10 à 40% parfois sur certains articles de fourniture cette année. Alors les associations de parents d'élèves demandent parfois la gratuité des fournitures. Le gouvernement n'y est pour le moment pas favorable, mais certaines communes prennent cette initiative. Alors faut-il raccourcir cette liste, au moins s'en tenir au strict minimum ? C'est le reportage de la rédaction ce matin, réalisé à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Reportage signé Estelle Henry.
Un peu plus de 392 euros, c'est le montant de l'allocation que devrait toucher Alizée. Une aide bienvenue pour cette maman d'une petite fille qui fait sa rentrée en CE2.
Ça me soulage parce que en début d'année, on débourse beaucoup en fait.
Mais pour Karine, c'est une autre histoire. Sa fille aînée rentre en 6e avec une liste de 2 pages de fournitures à acheter et seulement 800 euros par mois de salaire. L'allocation ne suffira pas pour couvrir tous les frais de la rentrée.
Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit ouf. Ouf. J'ai fait que la moitié et encore c'est pas fini. Les profs, ils devraient faire attention un peu au matériel qu'ils demandent, quoi, ouais. Ils ne se mettent pas à la place des personnes qui ont petit revenu.
Une situation qui met Pascal, l'ex-mari de Karine, en colère.
De toute façon, c'est de pire en pire. Au plus les années passent, de toute façon, au plus les profs ils en demandent. Donc, calculatrice scientifique, les cils et là, mais bon, il faut arrêter le délire, quoi. Il faut penser aux familles qui ont plusieurs enfants. Et bon, ben, à un moment donné, on s'en sort plus. C'est plus possible. Parce que tout augmente dans la vie, sauf le salaire. Et le salaire, oui, s'il augmente de 1%, ben c'est le maximum. Mais bon, comment on fait pour survivre ? Parce qu'on ne vit plus, on survit.
Des listes trop longues et une aide qui ne compense pas le taux d'inflation, c'est ce que constate également Isabelle Ferry, présidente de la Fédération de parents d'élèves de l'Académie d'Aix-Marseille, qui appelle les professeurs à plus de sobriété.
Nous, à la PEP, on demande à ce que les professeurs fassent face quand même un peu de discernement. Multiplier les cahiers, parce qu'on les veut de 97 pages, de 200 pages, qu'on veut des couvertures bleues, roses, oranges, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyons raisonnés, c'est cher. C'est un coût. Donc les parents vont faire l'effort d'acheter des cahiers neufs ou des feuilles. Mais d'un autre côté, il faut que les professeurs acceptent effectivement que le cahier soit pas de la bonne couleur ou pas du bon format, de façon à ce que ça réduise la facture pour les parents.
Et en 2021, selon l'association Famille de France, le panier de fournitures de rentrée pour un élève de 6e s'élevait en moyenne à près de 200 euros.
Voilà, ce reportage signé Estelle Henry pour poser ce débat. Faut-il un peu plus de sobriété, comme le disait cette représentante de la PEP. On en parle tous ensemble au 32-16 et sur l'application RMC. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles. Ah, on n'a pas Gilles.
C'est le oui. Prénom que ma nièce, prof de matoa, va donner à sa fille qui va avoir 3 ans et demi, qui va rentrer cette année.
Alors attendez Gilles, on va... Allô, pardon, oui. Désolé, Gilles, on n'a pas entendu le début de votre phrase, vous n'étiez pas à l'antenne.
C'est le prénom qu'a donné ma nièce Émilie, qui est prof de maths dans un collège du Havre, à sa fille qui va rentrer à l'école maternelle pour la première fois le 1er septembre.
Alors, la liste des fournitures scolaires.
Où j'habite, moi, je suis à une ville de 3000 habitants.
Il y a un petit problème, hein, je pense que c'est pas du tout ça. Est en ligne avec quelqu'un d'autre de l'équipe qui est en train de le briefer. Donc, je pense qu'on le récupérera.
Alors, il nous entend pas, en fait.
Oui,
il nous entend pas du tout, Gilles.
Peut-être.
Alors, est-ce que Gilles nous entend?
Oui, ce que j'ai entendu dans un reportage, c'est pas du tout ce que...
Non, oh là là, bon, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Décidément, on va pas y arriver. Alors, on en parle tous ensemble de cette liste de fournitures scolaires. C'est vrai qu'on le voyait dans le reportage. Plus les années passent, plus les enseignants en demandent. C'est ce que disait ce parent d'élève. Alors, on vous attend, on attend vos témoignages. Le 3216, l'application RMC. Est-ce qu'on a retrouvé Gilles ?
Je suis là depuis plusieurs
Gilles.
Minutes.
Allô ? Non, on l'a toujours pas. Bon, décidément.
Je suis là depuis plusieurs minutes, allô ?
Oui, Gilles, vous m'entendez ?
Allô ? Oui, je vous entends.
Ah, bah on a l'impression que vous nous entendiez
je suis là
pas.
Depuis plusieurs minutes, moi.
Ah, bah, bienvenue
j'ai
sur RMC, Gilles.
Nuit, donc,
bon. Comment vous réagissez à ce reportage ? On voyait ces parents d'élèves qui disent plus les années passent, plus les enseignants. Oui.
C'est pas du tout ce que je vis dans ma commune de 3000 habitants. Moi, j'étais enseignant pendant 38 ans, je suis en retraite depuis 11 ans. Et je continue à m'occuper des écoles du secteur. Et donc, chez nous, les enfants viennent avec leur cartable et leur trousse. Et on leur donne tout.
D'accord. Pour l'école primaire, en tout cas.
Je suis enseignement public. Et ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il y a, chez nous, il y a l'enseignement public et il y a la guerre avec l'enseignement privé. Ça, c'est, hein. Dans ma commune, il y a 70% d'élèves qui vont à l'école publique et 30% qui vont à l'école privée. Ceux qui vont à l'école privée, on leur demande 22 euros par mois. Après, en plus.
D'accord.
Alors, ça, ils font ce qu'ils veulent, les enseignants.
Après, alors, votre commune, c'est pas le cas de toutes les communes, hein, Gilles?
Comment
c'est loin d'être le cas de toutes les communes. Hein. Toutes les communes ne fournissent pas les fournitures.
C'est le cas de ma commune, entre Rennes et Saint-Brieuc. Donc, à l'école publique, on demande 0 euros. À l'école privée, bon, ils font ce qu'ils veulent. En ce moment, ils demandent 22 euros par mois. Et si les parents préfèrent donner 22 euros, mais bon, on en a 70.
Pour vous, il faudrait généraliser cette gratuité dans le public, au moins pour les élèves d'école primaire.
Après, c'est une situation qui dépend de la mairie et des parents d'élèves.
Et oui, voilà, c'est ça.
Parce que pour donner ça, nous, on fait beaucoup de fêtes. On fait des bals disco pour les jeunes, des bals disco, des bals musettes pour les anciens. On fait des lotos, enfin, on fait plein de choses. Et avec tout ça, bah, c'est 10 ou 20 000 euros qui rentrent dans les caisses qu'on redistribue pour acheter des fournitures et les parents n'ont rien à acheter.
Voilà, une belle initiative. Merci pour votre témoignage, Gilles, ce matin sur RMC. On est également avec Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Allô, allô, Elisabeth, décidément, on n'y arrive
pas aujourd'hui.
Ah, Elisabeth est là. Bonjour, Elisabeth. Bienvenue sur RMC. Comment ça va ce matin?
Ça va.
J'ai eu peur, je ne vous entendais pas.
Oui.
Comment vous réagissez à ce qu'on voit? C'est vrai qu'il y a certaines communes qui prennent en charge les fournitures, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et parfois, les listes s'allongent. Et puis, on peut parler du collège aussi, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup aux parents parfois.
Bah, nous, dans notre commune, on en donne déjà des gratuités au niveau des fournitures scolaires. Comme là, on va avoir le papier de la mairie et on va aller chercher. Bon, c'est peut-être pas grand-chose, mais ce qui est donné est donné. Ouais. Mais bon, au niveau collège, je pense que oui, là, ça devrait être gratuit parce que c'est vrai que c'est des choses très importantes et c'est dur pour le budget.
Collège. Vous avez des enfants, des petits-enfants, Elisabeth ?
J'ai des petits-enfants. Nous avons déjà fait la... chercher les fournitures en début juillet, ça nous a coûté 200 euros. On n'a pas encore tout eu. Hein. Ah, il nous manque encore quelques bricoles.
Vous avez pris de l'avance, en tout cas.
Oui, on a pris de l'avance. On prend toujours de l'avance.
Est-ce que vous l'avez fait justement parce que vous saviez que ça allait coûter plus cher cette année?
Plus cher, oui, mais oui et non, parce que bon, il y a pas mal de promotions. Nous, on regarde pas, on prend pas de marque, on prend tout ce qui est promotion, donc ça va encore, mais malgré tout, on en a quand même eu pour 200 euros. Mais non.
Après, c'est vrai que ça monte vite. Vous aviez donc dès le mois de juin les listes pour l'année prochaine?
Oui. Nous, on a toujours les listes en fin juin, début juillet. Ça nous permet d'acheter avant. Et puis voilà. Donc,
et cette liste, elle vous a paru parfois un peu abusive
ou
ils sont restés corrects?
c'est correct. Nous, c'est correct. Hein. C'est pas bon. C'est tout ce qui est crayon, feutre, tout ce qu'ils ont besoin. Mais c'est correct. Ça va, c'est correct.
Vous n'avez pas de cas de cahiers très spéciaux à trouver.
Non,
parfois, c'est très précis.
Les grands carreaux. Les cahiers, c'est vraiment des cahiers simples. Non, les crayons de bois pas simples. Non, tout. Mais en fait, il va qu'en primaire. C'est ça. Hein. C'est plus simple. Hein. Que le collège, le lycée, là, c'est plus important. Là, ça coûte très cher. Là, pour on devrait leur donner la gratuité.
C'est ça, ouais.
Pour les primaires, je pense pas vraiment que c'est l'utilité. Moi, je trouve que c'est pas très cher.
Bon.
Ça va encore, c'est raisonnable.
Merci Elisabeth pour votre témoignage. Et c'est vrai qu'au collège, ça commence à coûter plus cher. Et puis, on pense aux familles qui ont plusieurs enfants en parallèle à devoir tout acheter au même moment. On continue d'en parler tous ensemble, le 32-16, l'application RMC. Il est 6h21.
RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, ce sont nos pépites RMC du jour, les histoires d'Anaïs Castagna et Quentin Dubois. Bonjour Quentin.
Bonjour Sébastien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un policier japonais qui, ivre, a égaré des centaines de documents confidentiels après s'être endormi dans la rue.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et ce matin, on parle du coup de la rentrée scolaire. Alors que l'allocation de rentrée est versée en partie aujourd'hui à 3 millions de foyers français, elle a été revalorisée, mais pour certains, ça ne suffira pas à faire face à l'inflation. Vous êtes nombreux ce matin à partager vos idées sur Direct Studio. Christian nous écrit pourquoi toutes les académies, les établissements scolaires ou encore les mairies ne se mettraient pas d'accord pour l'achat commun de matériel de base, des achats groupés qui feraient ensuite diminuer la facture, nous dit-il. Vous êtes nombreux à être d'accord avec ça hein, sur Direct Studio. Fabien nous dit au moins en plus il n'y aurait pas de différence entre les élèves. En revanche pour Alex, c'est aux parents d'assumer. Alex, lui, veut relativiser le coût des fournitures. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à acheter, mais la prime suffit, nous dit-il. Moi j'en ai eu pour 180 euros pour 3 enfants, allez-y. Je lis vos témoignages sur Direct Studio.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h24 sur RMC et RMC Story.
Les pépites RMC.
Les pépites RMC, ce sont nos histoires du jour avec Anaïs Castagna et Quentin Dubois. Quentin, on commence par cette histoire au Japon, ce fonctionnaire de police un peu trop alcoolisé qui a perdu des documents précieux.
Oui, la gaffe s'est passée dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le policier en question a certainement voulu célébrer l'arrivée du week-end, sauf qu'il y est allé un petit peu trop fort. Trop saoul, il s'est endormi dans la rue, égarant par la même occasion des documents liés à plusieurs enquêtes.
Qu'est-ce qui contenait ces documents ?
Alors, les noms et adresses de personnes impliquées dans différentes enquêtes criminelles. Et pour être plus précis, il a égaré les données personnelles de 400 personnes, dont un suspect criminel. Dans ce cas précis, on parle de vrais documents papier dans un sac. Ça devait faire un gros paquet. C'est pas une petite clé USB comme c'est déjà arrivé auparavant.
Parce que c'est déjà arrivé précédemment ?
Oui, l'histoire se répète, mais ne se ressemble pas vraiment. En juin dernier, un fonctionnaire de la ville d'Amagasaki, dans la même région, avait perdu un sac contenant une clé USB sur laquelle y étaient enregistrées les données personnelles de l'ensemble des 460 000 habitants. Il s'était aussi endormi sur le chemin du retour après avoir été boire un verre. Lui a eu plus de chance, la clé USB a été retrouvée le lendemain matin. Dans les deux cas, les autorités ont déclaré aux médias japonais que les fonctionnaires étaient sortis boire un verre avec des collègues avant de s'endormir en rentrant chez eux. Le verre devait être soit très grand, soit très fort pour qu'il s'endorme sur le chemin du retour.
Bon, ça n'a pas eu de conséquences, ces documents perdus sur les premiers, sur les enquêtes. Pas de...
Ah bah écoutez, là, ils n'ont pas encore été retrouvés. La clé USB a été retrouvée maintenant, là, pour
c'est
le moment.
Dans les mains de qui ils peuvent, peuvent tomber. Anaïs, on parle avec toi de ce PDG américain vivement critiqué après avoir publié une photo de lui en larmes.
Oui, ce PDG, c'est Braden Wallachy, PDG de l'entreprise Hypersocial, entreprise spécialisée dans l'optimisation des publications sur le réseau social LinkedIn. Il a publié une photo de lui en larmes la semaine dernière sur le réseau social après avoir licencié plusieurs salariés. Avec ce message, écoutez bien, j'aimerais être un chef d'entreprise qui n'est motivé que par l'argent et qui ne se soucie que de ceux qu'il a blessés. Mais je ne le suis pas, je veux juste que tous les gens voient que tous les PDG ne sont pas insensibles. Il a reçu des soutiens, mais aussi, évidemment, aussi beaucoup de critiques. De nombreux utilisateurs du réseau social ont trouvé ça totalement déplacé de le voir, je cite, pleurnicher, alors que c'est pour les personnes qu'il a licenciées, évidemment, que c'est le plus compliqué. Critique auquel il a répondu, il affirme que son intention n'était pas de se victimiser, mais de montrer que les patrons ne licencient pas par gaieté de cœur.
Bon, voilà, ça s'appelle un buzz raté, non ?
Ouais, c'était très déplacé, on peut le dire.
Non, mais c'est LinkedIn, hein, maintenant, ça ressemble à ça, voilà. C'est des gens qui publient ce genre de choses ou de bons conseils, du genre « mes employés sont heureux chez moi, je leur donne... des avantages, etc. Des trucs évidents, mais il faut pousser pour montrer qu'on a un bon patron, qu'on est un bon patron.
Merci à tous les deux. Dans un instant, la météo et le journal. Et d'abord, donc, cette saisie exceptionnelle dans les Hauts-de-Seine.
15 tonnes de protoxyde d'azote, une drogue également appelée gaz hilarant, très prisée par certains jeunes. 15 tonnes en une prise, c'est un véritable record. À titre de comparaison, la même quantité a été saisie en 8 mois sur tout le territoire. L'enquête a débuté presque par hasard il y a une dizaine de jours, Lucille Pascanet.
Tout commence à Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, quand un homme conduisant un scooter refuse d'obtempérer. La police le rattrape dans le coffre de son véhicule. Surprise, les agents découvrent 6 bouteilles de protoxyde d'azote. Le conducteur passe alors aux aveux. Il est livreur de gaz hilarant. Ses clients l'achètent via le réseau social Snapchat. La police se rend ensuite à Collégien, en Seine-et-Marne, dans le local où l'homme se ravitaille. Dans un box, les agents découvrent plus de 800 bonbonnes de protoxyde d'azote. Une saisie déjà conséquente, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, les policiers remarque un camion. Un chauffeur néerlandais vient livrer 14 palettes de bonbonnes, 12 tonnes de gaz, ce qui mène à la saisie la plus importante de l'histoire. L'enquête a été confiée à la police judiciaire des Hauts-de-Seine. L'objectif est maintenant d'identifier les organisateurs de ce trafic d'envergure internationale.
6h31 sur RMC, à 2 semaines de la rentrée. On vous dévoile ce matin le baromètre de l'AFAGE, la Fédération des Associations Générales Étudiantes.
2 527 €, voilà le coût d'une année de cours pour un étudiant en 2022, selon la première organisation étudiante du pays. Un chiffre qui augmente de plus de 7% par rapport à la rentrée dernière, Marion Tessen.
La FAGE distingue deux types de dépenses pour les étudiants. D'un côté, les frais de rentrée qui augmentent cette année de quasiment 32 € pour un étudiant hors Île-de-France, avec notamment l'explosion des dépenses de complémentaire santé. Et puis de l'autre côté, les frais de la vie courante, comme le loyer, les paniers de courses ou les transports qui augmentent en raison de l'inflation. La première organisation étudiante de France estime donc que faire face au coût d'une année étudiante sans un travail salarié ou sans le soutien de la famille est inimaginable. Selon l'indicateur de la FAGE, le coût d'une année étudiante a augmenté de 55% en 20 ans contre 33% pour les bourses universitaires, d'où cette revendication parmi tant d'autres d'une réforme du système des bourses, réforme promise par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle.
Et dans une demi-heure sur RMC, la témoin du jour sera la vice-présidente de l'AFAGE, donc le premier syndicat étudiant qui mesure chaque année ce coût de la rentrée étudiante. Anne-Laure Seriec sera mon invitée à 7h10 sur RMC.
RMC, 6h32, les orages de retour aujourd'hui. 5 départements sont en vigilance orange. Le Tarn, l'Aveyron, l'Aude, l'Hérault et le Gard. L'épisode orageux va débuter cet après-midi jusqu'à au moins demain. Et certains de ces départements ont été touchés par des feux ces dernières semaines. Et pourtant, ils sont désormais menacé par des inondations. En cause, la sécheresse des sols, explique David Labba, professeur en hydrologie à l'université Toulouse 3.
Lorsque vous avez un sol qui est très sec, l'eau en fait n'a pas le temps d'imbiber le sol. En conditions normales, lorsque vous avez des sols humides, vous avez une eau qui va rencontrer un sol qui est déjà très humide et donc du coup vous allez avoir ce qu'on appelle une perméabilité à l'eau qui va être beaucoup plus importante et donc une absorption des sols beaucoup plus rapide. Et c'est ce qui permet ensuite leur recharge de la nappe. Actuellement en fait, même si vous avez des orages, ces orages en fait c'est un peu comme si vous aviez de l'eau qui coule sur une plaque d'aluminium.
Et en Gironde, si les incendies sont désormais fixés, la surveillance, elle, ne faiblit pas. Chaque jour, des dizaines de réservistes de la gendarmerie de toute la région se relaient pour prévenir et dissuader. Une toute nouvelle brigade a été créée il y a quelques jours. Sa mission, empêcher les nouveaux départs de feu et traquer les éventuels pyromanes. Reportage de Mathieu Limongi à Soulac-sur-Mer.
Un rapide briefing et puis direction une zone sensible à chaque patrouille. Ce sont des dizaines de personnes qui sont contrôlées. Le lieutenant Ferraza a même le soutien de 2 motos tout terrain et d'un hélicoptère. C'est lui qui chapeaute les opérations.
Il faut savoir anticiper l'objectif du pyromane. Donc on observe tout ce qui nous paraît anormal, tout ce qui nous paraît suspect, soit en termes de comportement, soit en termes de dispositifs mis en place dans la forêt. Ça peut être des bidons qui peuvent être inflammables ou des branches qui sont regroupées de manière anormale dans la forêt. Delta 220.
Le lieutenant et ses équipes sont alertés sur un possible départ de flamme. Se rendre sur place fait aussi partie de leur mission. Dans la forêt, sous terre, la braise brûle encore.
C'est un point très très chaud, quoi. Bouteille d'eau en premier, extincteur en deuxième.
Les gendarmes appellent les pompiers, le feu est évité et heureusement, car après un mois d'incendie, l'angoisse domine encore chez les habitants, comme l'observe Nora, l'une des réservistes.
C'est important de rassurer aussi les riverains. Il y avait de l'inquiétude, donc en nous voyant, ils étaient très contents, ils nous remerciaient. Il y a un côté rassurant de notre présence.
Une présence qui devrait être maintenue en Gironde au minimum jusqu'au mois de septembre.
Mathieu Limongier, envoyé spécial pour RMC en Gironde. Et puis un homme a d'ailleurs été interpellé dimanche soir à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est suspecté d'être à l'origine de deux départs de feu dans le département. Des feux rapidement éteints depuis. Le pyromane présumé a été placé en garde à vue. Il est déjà connu des services de police.
RMC 6h35, on en vient à ce très bel été pour les professionnels du tourisme. Les visiteurs étrangers font leur grand retour en France.
Oui, la Tour Eiffel leur avait visiblement bien manqué pour la première fois depuis le début de la pandémie. Le chiffre d'affaires en Île-de-France dépasse celui d'avant-crise. Et dans les quartiers les plus touristiques de Paris, l'affluence se fait sentir. Émeric Dantreuil et Tanguy Roman Clavelou se sont baladés dans la capitale pour RMC.
Devant Notre-Dame de Paris, les touristes enchaînent les photos. Parmi eux, Raquel, une voyageuse mexicaine, elle a longtemps attendu ce voyage à Paris.
Nous voulions venir depuis plus de 2 ans, mais c'était impossible à cause de la pandémie. Aujourd'hui, j'ai toujours peur quand il y a trop de monde, mais ça ne nous empêche pas de profiter au maximum de Paris.
Lunettes de soleil sur le nez, Bethel est venue de New York avec son mari. C'est la 6e fois qu'elle visite Paris, mais elle n'était pas revenue depuis le début de la crise sanitaire.
C'est intéressant de voir à quel point la vie a repris ici. Nous ne pensions pas qu'il y aurait autant de touristes.
Dans une bijouterie toute proche, les touristes étrangers se pressent devant la vitrine. Une clientèle particulièrement dépensière pour le plus grand plaisir de Cyrine, la vendeuse.
Des Espagnols, des Américains, des Allemands. Il y a une semaine à peu près, c'est des gens d'Amérique latine. Sur une vente, on était déjà à 500 euros.
Même constat pour Loris, il est serveur à la bûcherie à un restaurant voisin.
Si, c'est une renaissance. Ouais. On fait beaucoup de chiffres et tout. Ça fait plaisir au portefeuille. Hein. Les étrangers, ils ont la culture aussi du pourboire. Ils arrivent dans les tables, ils lâchent beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir avec la clientèle française. Okay. Désolé.
Le retour de certaines nationalités reste cependant plus lent. C'est le cas pour les touristes chinois ou russes.
Reportage à Paris d'Émeric Dantreuil et Tanguy Roman Clavelou. Journée réussie hier au championnat d'Europe multisport. 3 nouvelles médailles en natation à Rome, avec notamment le relais tricolore qui décroche l'or aux 4 fois 100 mètres mixtes. À Munich, 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent en cyclisme sur piste, le bronze en escalade et le sacre d'Emmanuel Lebesson et Jianyan Yuan au tennis de table. De quoi faire passer la pilule de l'abandon de Kevin Mayer, touché à la cuisse. Le champion du monde a annoncé hier se retirer de la compétition.
Les courses, le quintet, c'est sur l'hippodrome de Deauville aujourd'hui et c'est à 18h.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori, c'est le numéro 12, Lily Rose. L'outsider, le numéro 15, Pearl's Angel. Le 12 et le 15, la course du quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal d'Alexandra Sirgan sur RMC. Il est presque 6h38. On va retourner au 32-16 où Fabien nous attend. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC Fabien. Ça va ce matin? Levé tôt?
Oui, levé tôt. Au travail déjà.
Au travail déjà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Traiteur événementiel sur Bordeaux.
Sur Bordeaux. Vous avez des enfants, Fabien?
Oui, 2.
Alors, comment vous abordez cette rentrée coûteuse?
Alors, j'étais sur Paris avant, j'avais une grande fille où la commune fournissait tout, les fournitures scolaires.
Ouais.
Ils arrivaient le jour de la rentrée des classes, tout était posé sur table, tout le monde le même cahier, tout le monde les mêmes stylos. Et ça, c'était très très bien parce que je pense qu'ils ont un pouvoir de négociation au niveau des achats beaucoup plus important que nous, en étant individuel, et là, ils peuvent faire du groupé. Et là, moi, j'ai la petite et on est maintenant sur Bordeaux. Et sur Bordeaux, ça se passe pas comme ça. Il y a des listes de fournitures scolaires qui sont, comme tout le monde, qui s'accentuent. Et on voit cette année, il y a eu des cahiers qui n'ont même pas servi.
Ah oui?
Ah oui. Où il y a 2 pages de collé pour le cahier de poésie. Il y a 2 pages de collé où il y a 2 poésies, c'est tout, quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ridicule, là. C'est un vrai problème, ça.
Ah, totalement. Alors que je pense que l'État a un pouvoir de négociation et de force pour négocier les tarifs avec cette hausse. Qu'on subit de tout.
Mais là, qui est en cause, c'est les enseignants qui en demandent trop, ils ont quel âge, ils sont en primaire.
Ouais, je pense qu'il y a déjà un peu trop de demandés, et puis après, c'est d'avoir un cahier pour 2 pages de coller pour des poésies ou des choses comme ça. Ça peut être collé dans un autre cahier, dans un cahier de français, c'est de la poésie aussi, le français. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut un peu peut-être optimiser, quoi. Il y a de quoi.
Totalement.
On voit le prix des cahiers, pour vous, il faudrait absolument que ces fournitures soient gratuites dans toutes les communes.
Gratuites, oui, dans toutes les communes. Et puis après, gratuites entre guillemets, puisque l'État l'achèterait. Et au lieu de donner une aide de rentrée, ils n'ont qu'à la donner soit au directeur avec le nombre d'enfants inscrits dans l'école, et puis bah, c'est le directeur qui négocie, ou c'est quasiment c'est le ministère de l'Éducation qui négocie les achats. Mmh. Voilà, et puis là, l'aide de rentrée, des fois, ne sert pas toujours à acheter des fournitures scolaires. Hein. Quand vous voyez des enfants qui ont des difficultés et qui ont des chaussures à 150 euros dans les pieds, à un moment donné, on se demande comment ils font, quoi.
En tout cas, cette aide, elle est versée uniquement aux plus modestes. Elle n'est pas, voilà,
oui,
elle n'est pas
versée à tout le monde. C'est pour, ouais. C'est pour ça. Merci. Que je pense que ça serait sur table en arrivant, tout le monde le même cartable, il n'y aurait pas de problème, quoi. Il n'y aurait pas de différence.
Oui, il y a aussi cette histoire de cet aspect de marque de cahier aussi, où on connaît les marques de cahiers de texte avec les motifs de dessins animés, etc., qui peuvent
après, on
effectivement.
Après, comment sont les enfants. Ils ont envie de s'exprimer, de se différencier.
Oui, mais ils ont toujours envie d'avoir le plus beau, que le voisin, et ça peut créer aussi des concurrences et des jalousies. Merci Fabien pour votre témoignage. On continue d'en parler tous ensemble au 32-16, et on sera tout à l'heure en ligne avec l'adjointe au maire de Roubaix, qui est une commune qui justement fournit gratuitement les fournitures aux écoliers. On peut aussi parler du collège, parce que effectivement, quand il y a la gratuité, en général, c'est pour les écoles primaires, mais c'est pas forcément pour les collégiens, et ça peut coûter très cher. À tout de suite sur RMC, il est
6h40. RMC, 6h-9h.
Apolline Matin.
Et vos rendez-vous à suivre dans cette matinale, dans une petite demi-heure à 7h10. Le coup de la rentrée étudiante, cette fois RMC vous dévoile l'indicateur de la FAGE, le premier syndicat étudiant, avec des conclusions extrêmement claires, plus 7,3%. C'est l'augmentation du coût de la rentrée étudiante par rapport à l'année dernière. C'est plus que l'inflation. À 7h10, je reçois Paul Maillot, c'est le président de la FAGE. À 7h40, après les canicules et la sécheresse, voici les orages. 5 départements sont passés en vigilance ce matin. Attention, de grandes quantités de pluie sont attendues, notamment sur le Languedoc-Roussillon la nuit prochaine. Beaucoup d'eau sur un sol très sec, risque maximal, mal d'inondation. Les explications de deux experts à 7h40, Vasken Andréassian, il est hydrologue, et Sylvain Chave qui travaille pour la société Predict. Il est spécialisé dans la prévention des risques naturels.
À Nancy, où désormais vous n'avez plus le droit de laisser tourner votre moteur quand vous êtes à l'arrêt. Vous risquez même 135 euros d'amende, mesure que la municipalité justifie par un souci de lutter contre la pollution de l'air et sonore. Bertrand Masson, adjoint au maire de Nancy, sera avec nous. C'est le parti pris du jour.
Une amende quand on laisse tourner son moteur, ça va vous faire réagir. 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Très bon réveil si vous nous rejoignez sur RMC et RMC Story, il est 6h45.
Le parti pris.
Et le parti pris du jour, c'est le vôtre, Bertrand Masson. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'adjoint au maire de Nancy. Votre parti pris à Nancy, c'est de verbaliser les automobilistes qui laissent leur moteur tourner à l'arrêt depuis vendredi. Dans votre ville, il est interdit donc de garder son moteur allumé quand on est stationné. Par exemple, pour laisser la clim fonctionner. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? C'est si fréquent que des voitures restent arrêtées avec le moteur qui tourne?
Alors je ne crois pas que ce soit plus fréquent à Nancy qu'ailleurs dans d'autres villes de France, mais je pense que aujourd'hui toutes les mesures que nous pouvons prendre à la fois collectivement et individuellement pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les gaspillages énergétiques sont nécessaires. Donc cette mesure, elle s'inscrit dans un panel de toute une série d'autres mesures que nous prenons pour améliorer la qualité de l'air, pour lutter contre le gaspillage énergétique.
On comprend l'idée, alors là, pour le coup, l'amende s'élève à 135 euros pour un moteur qui tourne à l'arrêt. Ça vous paraît pas un peu disproportionné, 135 euros? C'est autant que
c'est
quand
un arrêté municipal
quoi.
Qui a effectivement été pris vendredi. À cette heure, et je pense que tout le monde peut le comprendre, on est d'abord dans un temps d'information, de sensibilisation, dans un temps de pédagogie. Il ne s'agit pas immédiatement de verbaliser. Il s'agit d'abord de faire prendre conscience. Depuis maintenant quelques jours, la police municipale informe les conducteurs qu'elle pourrait surprendre le moteur allumé. Quand on est à l'arrêt, il ne s'agit pas de sanctionner. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de la ville, ce n'est pas
symbolique. C'est plus
faire
prendre conscience.
Complètement, on est vraiment plutôt dans le symbole, mais dans un arrêté qui est symbolique, qui est d'ailleurs en réalité l'application d'un arrêté ministériel qui date de 1963. À cette heure, l'objectif n'est pas forcément de verbaliser, il est plutôt de faire prendre conscience, de rappeler chacun sa responsabilité individuelle.
Vous avez mesuré l'impact, vous avez une idée de l'impact d'une voiture qui tourne à l'arrêt, ça consomme beaucoup, ça émet beaucoup de pollution ?
On sait en tout cas que l'automobile, que le trafic routier émet environ 58% des oxydes d'azote, 25% des particules fines sur le territoire du Grand Nancy. Alors bien évidemment, cette mesure, elle permet pas de supprimer ces émissions de particules fines. Elle peut y contribuer, bien évidemment, sans que à cette heure je puisse vous donner de chiffres précis. Mais je pense que c'est une mesure de bon sens. En réalité, et d'ailleurs les automobilistes que nous interrogeons depuis maintenant quelques jours comprennent tout à fait cette mesure, parce qu'en réalité il n'y a pas de mauvais citoyens en la matière. Je pense que tous, on a pu parfois être de ceux qui, le temps d'attendre quelqu'un, le temps de déposer un enfant à l'école, d'aller acheter une baguette à la boulangerie du coin, eh bien, on laisse sa voiture allumée ou, comme vous le disiez à l'instant, pour avoir la climatisation quand il fait très chaud.
La climatisation et peut-être vous avez des hivers assez rigoureux à Nancy, le chauffage aussi.
Ça s'appliquera aussi l'hiver. Oui, mais vous savez, à Nancy comme ailleurs, l'hiver est de moins en moins rigoureux. Et c'est ça qui peut-être devrait nous inciter à agir plus qu'on ne le fait encore aujourd'hui.
L'idée, Bertrand Masson, vous dites qu'on va faire de la pédagogie dans un premier temps. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous pourriez passer à la verbalisation ?
Ça pourrait, c'est possible s'il y a des récalcitrants qui plusieurs fois se font prendre. C'est une possibilité, mais c'est vraiment pas un objectif. Je rappelle vraiment que c'est surtout un appel à la responsabilité collective. Le fait que nous puissions en parler, comme vous me le permettez ce matin dans les médias, permet d'attirer de nouveau l'attention sur les conséquences du réchauffement climatique. Et je pense que je crois que rien que cela, finalement, montre tout l'intérêt de cet arrêté.
Et ça, en tout cas, fait réagir. On entendra vos administrés dans un de nos reportages dans quelques minutes sur RMC. Et on attend évidemment toutes les réactions des auditeurs au 32-16. Donc sur cette mesure, vous avez donc déterré un arrêté ministériel qui existait, qui date de 1963, et qui permet donc de verbaliser les automobilistes lorsque le moteur tourne à l'arrêt, lorsque le véhicule est stationné. L'amende est à 135 €. Et vous nous dites ce matin, c'est d'abord pour faire de la pédagogie. Merci Bertrand Masson d'être venu préciser les choses sur RMC ce matin. Vous êtes l'adjoint au maire de Nancy. Il est 6h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et comme chaque matin, on continue de prendre des nouvelles de tous ceux qu'on a aidés et accompagnés sur RMC. Dans notre rendez-vous, RMC s'engage pour vous avec donc Johanna Chabaz. Bonjour Johanna.
Bonjour, je vous donne des nouvelles d'Evelyne. Retraitée, elle a prêté main forte à l'hôpital pendant la crise du Covid et sa caisse de retraite voulait lui reprendre son salaire. Mais la loi a changé juste à temps.
Et puis il y aura Loïc Rivière aussi ce matin pour Ça nous concerne. Une question de sécurité ce matin. Comment un simple maillot de bain peut nous sauver de la noyade?
C'est un vrai fléau, effectivement, chaque été. Alors, au-delà des règles évidentes de sécurité, la couleur de votre maillot peut tout changer, vous le verrez.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et vos témoignages sur Direct Studio ce matin, on parle du coup de la rentrée scolaire et des listes qui s'allongent de plus en plus. Morgane le constate cette année, la liste des fournitures scolaires de sa fille qui est en classe de 6e est aberrante, nous dit-elle. Un cahier 28 pages, un autre 50 pages, un grand cahier petit carreau, un autre grand carreau avec des nombres de pages différents, des classeurs rigides, d'autres souples. 180 € dépensés, 180 € qui partent donc dans ses fournitures scolaires. Heureusement qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire, nous dit-elle. Sur Direct Studio, vous êtes nombreux à souhaiter que les écoles gèrent, comme nous le disait Fabien au 32-16. Elles font des achats groupés pour que la facture soit moins élevée. C'est ce qui se passe aussi dans l'école du fils de Mehdi, nous dit-il. Allez-y, je lis tous vos témoignages sur Direct Studio.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
Allô ?
Non, monsieur, désolé. Je vous rappelle dès qu'on a de la dispo.
Joris est constructeur de piscine et aimerait embaucher, mais avec toutes ses commandes, il est débordé. Indeed peut l'aider à embaucher plus facilement avec l'entretien vidéo.
J'ai besoin d'Indeed.
Avec Indeed, vous pouvez publier une offre, gérer les candidatures et même faire vos entretiens d'embauche depuis une seule et même plateforme. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 € offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Intersport Motivation 99, rentrée en mode économie.
Ah, j'hésite. Pour la rentrée de Nino, on prend le rouge ou le bleu ? Je suis divisée.
Bah écoute, ça tombe bien parce que t'es pas la seule. Chez Intersport, les prix aussi sont divisés.
Mais non.
Mais si.
Allez, où ? On prend les deux.
Bah voilà. Jusqu'au 4 septembre chez Intersport, c'est la rentrée des économies. En ce moment, profitez de moins 50% sur le deuxième vêtement junior.
Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Et le meilleur magasin de sport de l'année.
Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière ? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin, une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Rendez-vous sur rmcbfm.pub.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
6h54 sur RMC.
Ça vous concerne.
Ça vous concerne, c'est votre rendez-vous chaque matin avec Loïc Rivière. Rebonjour, on parle des noyades ce matin. 1480 noyades accidentelles l'année dernière, dont 400 mortelles. Ça fait plus d'un décès par jour sur l'année. Ce fléau des noyades. Et ce matin, Loïc, vous nous expliquez comment le maillot de bain peut nous sauver.
Oui, vous vous souvenez certainement du très beau maillot de Pamela sur la plage de Malibu.
A priori, toi, ça t'a marqué.
Oui, le maillot rouge. C'est plutôt la mode David Hasselhoff. Dans tous les cas, c'est rouge. Vous devriez acheter le même maillot cet été. C'est une étude qui a été réalisée par une entreprise américaine spécialisée dans la sécurité aquatique qui nous le dit. L'idée est de nous aider à gagner en visibilité. En réalité, les trois quarts des baigneurs en difficulté seront finalement sauvés. Oui, mais il faut d'abord vous voir avant de plonger, comme l'a fait notamment le jeune Julien, 12 ans, qui a sauvé à lui seul une famille de 4 personnes au large de la grande plage de Biarritz. C'était la semaine passée, il fallait le saluer. L'idée donc de cette étude américaine est de comparer le point de vue d'un observateur depuis une plage abandonnée ou alors au bord d'une piscine bondée. Premier constat, regarder à travers l'eau ou à travers l'air, ce n'est pas du tout la même chose. Quand la surface de l'eau est légèrement troublée, il suffit de 50 cm de fond pour vous dissimuler du regard des sauveteurs.
Donc ça veut dire quoi ? On privilégie les maillots colorés, mais ça dépend de l'eau dans laquelle on plonge.
Voilà, alors pour les piscines, d'abord, le rose fluo a donné d'excellents résultats. Sur RMC Découverte, vous voyez toute la gamme de couleurs vos maillots et le résultat sous l'eau. Le bleu clair, vous oubliez. Trop difficile à distinguer. Le violet, le noir ne sont pas conseillés. En fait, on voit seulement une tache comme un objet qui flotterait à la surface de l'eau. Dans une eau naturelle, là, on manque encore plus de visibilité. Dans une mer agitée ou alors dans un lac aux eaux troublées. Le rose fluo, pourtant très efficace du côté de la piscine, là, ne se voit quasiment pas. Adoptez plutôt le look chantier avec du jaune ou du orange fluo pour avoir une excellente visibilité. Le blanc, lui, est trompeur. On le voit comme un reflet qui serait venu des profondeurs. Dans tous les cas, dans un lac, à moins d'un mètre de fond, on ne voit quasiment rien dans l'eau, quelle que soit la couleur du maillot. Le maillot seul ne pourra jamais vous sauver, évidemment. Il faut avant tout respecter les règles évidentes de sécurité, mais ces couleurs vous permettront de ne pas perdre de vue vos enfants. C'est important.
C'est un sacré budget. Hein. Il faut donc deux maillots. Un pour la piscine. Et un pour le...
Et je ne vous ai pas précisé, la piscine aux couleurs sombres ou aux couleurs claires.
Ça dépend du fond.
Le syndicat des vendeurs de maillots.
En tout cas, les couleurs vives. Gilets jaunes pour tout le monde. Merci Loïc Rivière, 6h56.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous. Nous revenons sur les histoires que nous avons suivies tout au long de l'année avec Johanna Chabas. Rebonjour. Bonjour. Johanna. On reparle d'Evelyne ce matin. Evelyne, en pleine crise Covid, elle est infirmière, elle est retraitée, elle est retournée travailler. Mais sa caisse de retraite voulait alors lui reprendre son salaire.
Oui, c'est ça. L'année dernière, Evelyne est venue en renfort à l'hôpital pour aider à la vaccination contre le Covid. Donc pour ça, la retraitée a touché un salaire. Sauf qu'à la fin de l'année, mauvaise surprise, sa caisse de retraite a voulu en reprendre une partie. La raison, c'est que quand on cumule la retraite et un emploi, il y a un plafond de salaire qu'on ne peut pas dépasser. C'est 15 000 euros par an brut pour Evelyne. Ce plafond devait être supprimé temporairement pour les soignants pendant la crise Covid. Mais en décembre, quand Evelyne nous écrit, aucun décret n'a encore été publié pour changer les règles.
Je vais donner de l'argent pour avoir travaillé, en fait. Ce que j'ai gagné du 22 novembre jusqu'au 17 décembre, eh ben, en brut, je devrais le rembourser à ma caisse de retraite. Peut-être je vais donner 2 500 euros, 2 800 euros à ma caisse de retraite si le décret n'est pas pris, en fait. Dans cette période, en plus, en sachant que les établissements hospitaliers ont besoin de personnel, les EHPAD ont besoin de personnel, je trouve dommage qu'on ne nous remercie pas d'être venus au travail, quoi.
Ouais, c'est absolument scandaleux. Alors à l'époque, la situation a été réglée, hein, in extremis pour Evelyne.
Oui, le gouvernement a changé la loi juste une semaine avant la fin de l'année. Le plafond de salaire a bien été supprimé, donc aucun centime n'a été repris à Evelyne pour le travail qu'elle a fait en 2021.
Quand vous m'avez communiqué la loi, bah, tout de suite ça m'a rassurée. Je savais que la caisse de retraite ne me demanderait rien. C'était bon. Tous les revenus étaient pour moi, pour aider ma fille, voilà. J'ai rien reversé à ma caisse de retraite.
Donc ça, c'était pour 2021. Vous avez pris des nouvelles. Qu'en est-il pour cette année 2022?
Oui, Evelyne se demande parce qu'elle a encore travaillé cette année pour les vacances. Eh bien, pour les soignants, le plafond pour le cumul emploi-retraite a été supprimé jusqu'en avril 2022. Et puis à nouveau pour cet été, le ministre de la Santé a demandé cette dérogation le mois dernier dans une lettre. Mais les syndicats, eux, demandent une pérennisation du dispositif que face au manque de personnel, le cumul emploi-retraite soit supplié pour tous les soignants.
On continuera de suivre ces dossiers. Merci. Johanna Chabas, RMC pour vous @rmc.fr, c'est l'adresse mail toujours ouverte. Vous avez besoin d'aide, vous écrivez à RMC. Dans un instant, la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Très bon réveil si vous nous rejoignez sur RMC et RMC Story, il est 6h45.
Le parti pris.
Et le parti pris du jour, c'est le vôtre, Bertrand Masson. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'adjoint au maire de Nancy. Votre parti pris à Nancy, c'est de verbaliser les automobilistes qui laissent leur moteur tourner à l'arrêt. Depuis vendredi, dans votre ville, il est interdit donc de garder son moteur allumé quand on est stationné. Par exemple, pour laisser la clim fonctionner. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision? C'est si fréquent que des voitures restent arrêtées avec le moteur qui tourne?
Alors je ne crois pas que ce soit plus fréquent à Nancy qu'ailleurs dans d'autres villes de France, mais je pense que aujourd'hui toutes les mesures que nous pouvons prendre à la fois collectivement et individuellement pour lutter contre le réchauffement climatique, pour lutter contre les gaspillages énergétiques sont nécessaires. Donc cette mesure, elle s'inscrit dans un panel de toute une série d'autres mesures que nous prenons pour améliorer la qualité de l'air, pour lutter contre le gaspillage énergétique.
On comprend l'amende s'élève à 135 euros pour un moteur qui tourne à l'arrêt. Ça vous paraît pas un peu disproportionné, 135 euros? C'est autant que
c'est
quand
un arrêté
on feu,
municipal
quoi.
Qui a effectivement été pris vendredi à cette heure, et je pense que tout le monde peut le comprendre. On est d'abord dans un temps d'information, de sensibilisation, dans un temps de pédagogie. Il s'agit pas immédiatement de verbaliser. Il s'agit d'abord de faire prendre conscience. Depuis maintenant quelques jours, la police municipale informe les conducteurs qu'elle pourrait surprendre le moteur allumé. Quand on est à l'arrêt, il ne s'agit pas de sanctionner. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de la ville, ce n'est pas
symbolique. C'est plus
prendre conscience. Complètement, on est vraiment plutôt dans le symbole, mais dans un arrêté qui est symbolique, qui d'ailleurs en réalité est l'application d'un arrêté ministériel qui date de 1963. À cette heure, l'objectif n'est pas forcément de verbaliser, il est plutôt de faire prendre conscience, de rappeler chacun sa responsabilité individuelle.
Vous avez mesuré l'impact, vous avez une idée de l'impact d'une voiture qui tourne à l'arrêt, ça consomme beaucoup, ça émet beaucoup de pollution?
On sait en tout cas que l'automobile, que le trafic routier est, émet environ 58% des oxydes d'azote, 25% des particules fines sur le territoire du Grand Nancy. Alors bien évidemment, cette mesure, elle permet pas de supprimer ces émissions de particules fines. Elle peut y contribuer, bien évidemment, sans que à cette heure je puisse vous donner de chiffres précis. Mais je pense que c'est une mesure de bon sens en réalité. Et d'ailleurs, les automobilistes que nous interrogeons depuis maintenant quelques jours comprennent tout à fait cette mesure, parce qu'en réalité, il n'y a pas de mauvais citoyens en la matière. Je pense que tous, on a pu parfois être de ceux qui, le temps d'attendre quelqu'un, le temps de déposer un enfant à l'école, d'aller acheter une baguette à la boulangerie du coin, eh bien, on laisse sa voiture allumée, ou comme vous le disiez à l'instant, pour avoir la climatisation quand il fait très chaud.
La climatisation, et peut-être vous avez des hivers assez rigoureux à Nancy, le chauffage aussi.
Le chauffage, ça s'appliquera l'hiver. Oui, mais vous savez, à Nancy comme ailleurs, l'hiver est de moins en moins rigoureux. Et c'est ça qui peut-être devrait nous inciter à agir plus qu'on ne le fait encore aujourd'hui.
Bertrand Masson, vous dites qu'on va faire de la pédagogie dans un premier temps. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous pourriez passer à la verbalisation ?
Ça pourrait, c'est possible s'il y a des récalcitrants qui plusieurs fois se font prendre. C'est une possibilité, mais c'est vraiment pas un objectif. Je rappelle vraiment que c'est surtout un appel à la responsabilité collective. Le fait que nous puissions en parler, comme vous me le permettez ce matin dans les médias, permet d'attirer de nouveau l'attention sur les conséquences du réchauffement climatique. Et je pense que je crois que rien que cela, finalement, montre tout l'intérêt de cet arrêté.
Et ça, en tout cas, fait réagir. On entendra vos administrés dans un de nos reportages dans quelques minutes sur RMC. Et on attend évidemment toutes les réactions des auditeurs au 32-16. Donc sur cette mesure, vous avez donc déterré un arrêté ministériel qui existait, qui date de 1963, et qui permet donc de verbaliser les automobilistes lorsque le moteur tourne à l'arrêt, lorsque le véhicule est stationné. L'amende est à 135 €. Et vous nous dites ce matin, c'est d'abord pour faire de la pédagogie. Merci Bertrand Masson d'être venu préciser les choses sur RMC ce matin. Vous êtes l'adjoint au maire de Nancy. Il est 6h50.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et comme chaque matin, on continue de prendre des nouvelles de tous ceux qu'on a aidés et accompagnés sur RMC. Dans notre rendez-vous, RMC s'engage pour vous avec donc Johanna Chabaz. Bonjour Johanna.
Bonjour, je vous donne des nouvelles d'Evelyne. Retraitée, elle a prêté main forte à l'hôpital pendant la crise du Covid et sa caisse de retraite voulait lui reprendre son salaire. Mais la loi a changé juste à temps.
Et puis il y aura Loïc Rivière aussi ce matin pour Ça nous concerne. Une question de sécurité ce matin. Comment un simple maillot de bain peut nous sauver de la noyade?
C'est un vrai fléau, effectivement, chaque été. Alors, au-delà des règles évidentes de sécurité, la couleur de votre maillot peut tout changer, vous le verrez.
A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et vos témoignages sur Direct Studio ce matin, on parle du coup de la rentrée scolaire et des listes qui s'allongent de plus en plus. Morgane le constate cette année, la liste des fournitures scolaires de sa fille qui est en classe de 6e est aberrante, nous dit-elle. Un cahier 28 pages, un autre 50 pages, un grand cahier petit carreau, un autre grand carreau avec des nombres de pages différents, des classeurs rigides, d'autres souples. 180 € dépensés, 180 € qui partent donc dans ses fournitures scolaires. Heureusement qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire, nous dit-elle. Sur Direct Studio, vous êtes nombreux à souhaiter que les écoles gèrent, comme nous le disait Fabien, au 32-16. Elles font des achats groupés pour que la facture soit moins élevée. C'est ce qui se passe aussi dans l'école du fils de Mehdi, nous dit-il. Allez-y, je lis tous vos témoignages sur Direct Studio.